Seigneur bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez les salutations du frère Mathieu, je pense. Et il m'a demandé de vous dire qu'il se joint à nous, évidemment, dans la prière pour en faveur du frère Albert. Il y a également salutations du frère Jean-Gérard depuis Kinshasa, et il nous dit la même chose, il dit que nous sommes ensemble dans la prière. Amen. Allons prier. Père Céleste, nous avons cet immense avantage de venir encore nous rassembler en cet endroit où nous pouvons puiser la force dont nous avons besoin. C'est vrai que le combat fait rage, c'est vrai que les stigmates des combats se font voir et nous ressentir toutes ces choses. Mais tout ce qu'il y a, nous te remercions de ce que nous soyons toujours debout. C'est vrai que les coups reçus sont de nature à nous étaler, mais nous savons que nous sommes dans ta main et la victoire est assurée. Et nous n'arrêtons pas de prier pour les nôtres. Nous n'arrêtons pas de demander de porter la consolation à ceux qui en ont besoin, qui ont été durement secoués. Nous n'arrêtons pas de demander la guérison de notre frère qui est à l'hôpital et de tous les autres qui sont alités dans les maisons. Ô Père, que tu sois avec chacun d'eux. Nous n'arrêtons pas de te demander assistance pour tous ceux qui en ont besoin. Et que tu, la manière que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier, il nous a dit que nous pouvions te demander notre pain quotidien. Que tu en donnes à chacun, ô Dieu, selon ses besoins, ô Père, pour qu'il puisse marcher non seulement le pain naturel, mais nous avons également besoin du pain spirituel. Ô Père, donne-nous cela pour le bien-être de nos âmes, afin que nos âmes ne soient pas sous-alimentées, ni mal nourries, mais qu'elles soient vraiment bien debout et bravant toutes les tempêtes. Nous nous accrochons à toi pour cela. Inspire-nous ta parole ce soir. Ouvre-nous l'intelligence que nous puissions comprendre, connaître ainsi notre position actuelle aujourd'hui, et que nous veuillons également dans ta bonté écouter nos prières, donner une attention particulière à nos prières, pendant que nous te les demandons, non pas en notre nom, te les demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, nous lirons dans 1 Jean, chapitre 2. Premier épître de Saint Jean. Chapitre 2. Il nous intéresse ce verset 20 et 21, mais nous allons lire à partir du 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, petits enfants. C'est pour cela que nous avons lu le verset 18. Ça s'adresse aux petits-enfants. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Les petits-enfants. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Amen. et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, l'apôtre s'adresse ici à ceux qu'il appelle affectueusement, n'est-ce pas, mes petits-enfants. Qui sont-ils, ces petits-enfants? Ce sont ceux à qui les péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Au verset 12, nous lisons ceci. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à qui le péché n'est pas imputé. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Petits enfants, leurs péchés ont été pardonnés. Les pères, c'est aussi une certaine catégorie. Les jeunes gens, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons lu dans verset 20-21 s'adressait aux petits enfants. Tous des enfants de Dieu, en fait. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Ils ont connu le Père. Ce sont ceux-là que l'apôtre appelle mes petits enfants. Nous intitulerons le sujet ce soir, il leur dit, vous connaissez la vérité. Ceux qui connaissent la vérité ont un immense privilège. Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. C'est un énorme privilège. Nous avons vu les semaines passées où Moïse voulait en savoir plus sur Dieu. Et Dieu s'est présenté à lui tel qu'il est. Et c'est important dans notre marche, parce que si nous regardons les prières des enfants de Dieu tout au long de la Bible, ils s'adressent à Dieu en se basant justement sur ce que Dieu a fait connaître de lui. On va prendre un exemple, on peut prendre soit celui de Daniel, soit celui de Néhémie. On va prendre celui de Néhémie, pour changer un peu, parce qu'on ne va pas souvent là-bas. Néhémie, chapitre 9. C'est juste avant Esther. Il parle à Dieu. Au verset 6, par exemple, il dit, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. » Mais selon ce qu'il s'est fait, il a fait connaître à Moïse en plus, il dit ceci au verset 17, « Mais les pères refusèrent d'obéir. » Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Amen. Compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Vous voyez, c'est important de le connaître. On peut avoir gaffé, mais on sait à qui on a affaire. On sait à quel Dieu on a affaire. C'est un Dieu qui est prêt à pardonner. Et évidemment, il ne pardonne pas à l'emporte-pièce. Il pardonne quand on est repentant, quand on regrette, quand on est sincère, et nous avons vu, il pardonne même l'iniquité. Même le ça, c'est la dernière fois qu'on s'est vu ici un dimanche, c'est de cela que nous avons parlé. Oui, il pardonne l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché volontaire. Pardonne cela aussi. Et ces petits-enfants qui connaissent la vérité, ils ont aussi le privilège d'être affranchis. Jean 8, 30. Verset 30, Jean 8. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils sont affranchis, ceux qui connaissent la vérité. Et la vérité, c'est la vérité qui a franchi. Cela nous montre clairement que la vérité, c'est quelqu'un. Amen. C'est d'autant plus quelqu'un qui se présente lui-même. Il dit ceci dans Jean 14. Il dit, verset 6, Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez le privilège de connaître la vérité, de connaître Jésus-Christ, parce que sans lui, vous n'arriverez jamais au Père. Ça va? Et même vos prières, pour qu'elles arrivent au Père, il faut qu'elles soient adressées en son nom. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et on se rappelle cette remarque qu'il fait à la Samaritaine. Il dit, si seulement tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, il faut le connaître. Quand Dieu vous fait un don, vous devez savoir ce qu'il en retourne de ce don. C'est important. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Vous voyez, elle avait un besoin. Elle avait besoin de boire cette eau qui jaillit même depuis dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Elle avait ce besoin d'eau-là. Et la personne qui lui dit « Donne-moi à boire », justement, c'est la seule qui peut lui donner de cette eau, qui peut lui donner de l'eau de manière à ce qu'elle n'ait plus jamais soif. Et aujourd'hui, nous devons pouvoir le reconnaître. Si nous le connaissons tel qu'il est, on n'a pas besoin de voir un homme devant nous. Je le répète souvent, en tenue palestinienne, oui, ça c'est pour un peu revenir sur le Deutéronome 22.5. Vous savez, les pantalons, comme on dit souvent, c'est un habit d'homme. C'est vrai. Les femmes ont dû se battre pour porter des pantalons. Mais nous devons savoir que les hommes en Palestine ne portaient pas de pantalons. Et même l'ange que le frère Branham voyait, il n'avait pas de pantalon. Il venait sous forme d'homme. Il y avait des tuniques. Il y a des tuniques d'hommes et des tuniques de femmes. Et ça, comme aujourd'hui, on m'a déjà rétorqué, je crois vous l'avoir déjà dit, il y a des pantalons pour femmes et des pantalons pour hommes. Maintenant, si les pantalons sont pour les hommes, vous savez, les pantalons pour dames, si je les porte, c'est aussi une abomination. Vous voyez? C'est une abomination devant Dieu. Et il dit ceci. Tu as eu raison, donc il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et c'est très important que nous puissions connaître le don de Dieu. Et donc, s'il est ici au milieu de nous, nous devons être capables, avec nos yeux spirituels, de le voir. Il y a un prélat catholique, un dignitaire catholique, qui était un peu sceptique sur les miracles que Dieu faisait du temps du ministère du frère Branham. Et il était parti assister à une réunion où il y avait prière pour les malades. Et quand, à l'issue de la réunion, on a rempli un camion, la remorque d'un camion a été remplie de béquilles que les gens ont jetées, de chaises roulantes et toutes ces choses, c'était des gens qui étaient guéris. Et ce prélat a assisté à ça, émerveillé, il s'est écrié « Aujourd'hui, j'ai vu Dieu ». Oui, c'est au travers de ses œuvres que nous le voyons. Nous l'avons dit mercredi, je vous assure, quand vous vous retrouvez dans sa création, vous pouvez le voir. Vous pouvez vraiment le voir, Dieu est réellement vivant. Et quand vous le voyez ainsi, vous vous promenez, que ce soit dans la rue, vous n'avez pas besoin de venir dans la petite salle ici. Vous êtes dans la rue, nous sommes en prière pour le frère. Dieu seul sait ce qu'il veut nous montrer par là. Mais vous n'avez pas tout simplement besoin de venir ici. C'est bien de se rassembler, c'est bien, parce que deux ou trois sont assemblés en son nom. Demandez. Mais quand vous vous retrouvez dans la nature et que vous le voyez, vous pouvez lui parler. Quand vous le voyez, parlez-lui. Il est là, il vous entend. C'est toujours lui, le frère. Moi, ça m'avait marqué cette expérience et je l'avais essayé moi-même. Mais bon, moi, je n'avais pas été aussi patient que lui, mais il cherchait à voir Dieu et il avait écrit un mot qu'il a collé sur un arbre en pleine forêt. Il a dit, « Monsieur Dieu, je veux vous voir. » Et il a fini par le voir. Ouais. Alors, désormais, quand je me retrouve dans une situation où je vois la grandeur de sa création, je lui dis, mais moi, je veux te voir. Et je vous assure, au travers de cette création, je le vois. Et je ne chante pas bien. Chaque fois qu'il faut chanter, j'appelle le frère qui conduit les chants pour chanter. Mais il m'arrive de sortir un cantique, je regarde, c'est surtout... Quand mon cœur considère tout ça, je vois combien tu es grand. Et à ce moment-là, quand vous avez vos besoins, dites-le-lui. Il vous entend. Il vous entend. Oui. Ah oui, il est dans sa création. Le frère nous l'a dit. Il est tout à fait dans sa création. Et sa création le connaît. Quand Christ a été crucifié à Golgotha, la terre a reconnu que c'était lui. La terre a tremblé, le soleil s'est caché, les étoiles également, les sépulcres même l'ont reconnu, se sont ouverts. Et les saints, là où ils étaient, les saints de l'Ancien Testament, ils ont appris qu'il était là. Quand il est ressuscité, ils sont ressuscités avec lui. Et ils ont été vus. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 27. Donc la vérité, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un a le pouvoir de vous affranchir. Si vous, affranchir, c'est quoi? C'est libérer un esclave. Alors maintenant, on peut dire comme les Juifs ici, on peut se dire, mais moi, je ne suis pas esclave. Le Seigneur nous dit de quelle libération, de quelle délivrance il s'agit. Il dit, celui qui pratique le péché, on va le lire, n'est-ce pas? Est esclave du péché, on le lira tout à l'heure. Mais les petits-enfants qui ont écouté Jean et qui connaissent la vérité, puisqu'ils connaissent la vérité, comme la parole de Dieu ne peut pas mentir, ils sont affranchis. En fait, Comment ont-ils connu Dieu? Ils ont écouté. Ils ont écouté Jean. Jean est un de ceux que Christ a envoyés, n'est-ce pas? On peut lire soit dans Apocalypse, soit dans Marc. On va lire dans Marc, parce que dans Apocalypse, il est seul. Ici, dans Marc, il dit à ses disciples, d'abord, Marc 16, verset 14, « Enfin, il apparut aux onze, puisque Judas n'étant plus là, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans Matthieu 28, verset 16, les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur les AVC, il a le pouvoir sur les hypertensions, il a le pouvoir sur tout cela. Jésus, donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Jean était un de ceux-là, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Et donc, ils avaient l'ordre d'enseigner. Ils sont partis, ils ont enseigné au nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui leur a donné cette commission. Les faux dirigeants, les faux conducteurs aujourd'hui, ceux qui prêchent pour leur ventre, Jésus ne les a pas envoyés. Mais ceux qu'il a envoyés, il s'en occupe et il est avec eux conformément à ses promesses. Et il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les petits-enfants dont Jean parle, ils ont écouté Jean. Ils ont écouté Jean. Et ils ont fini par ce que Jean leur a enseigné, ils ont fini par le connaître. Dans 1 Jean 4, verset 4, encore toujours petits-enfants, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. » Dites amen à ça. Amen. Vous qui connaissez la vérité, vous à qui les péchés sont pardonnés, amen, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Vaincus, ces esprits de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, hein, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi nous avons la victoire. Nous avons la victoire par le fait que quelqu'un est en nous, quelqu'un est venu habiter en nous, je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, petits-enfants et Jean, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Nous écoutons les disciples, les envoyés de Dieu. Nous écoutons donc cela. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui connaît Dieu, les petits-enfants, sait reconnaître qui parle de la part de Dieu et qui ne parle pas de la part de Dieu. Si son but est, puisque Paul dit « nous », il dit aux Corinthiens, il dit « nous, nous prêchons Christ ». C'est tout ce que nous faisons, nous prêchons Christ. Dans tout ce que nous faisons, nous prêchons Christ. Christ crucifié, c'est vrai, Christ ressuscité, c'est lui que nous prêchons. Nous ne prêchons rien d'autre. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons le prêcher. Nous avons des types, ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. David, qui attendait, David qui avait l'esprit, donc celui qui est en vous, qui avait l'esprit de Christ en lui, nous dit Pierre. Pierre dit que les prophètes avaient l'esprit de Christ en lui. David qui, par l'esprit, Jésus aussi le dit dans Matthieu 22, par l'esprit qui était en lui, David dit, il manifeste Christ. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. Et ils ont pris ma tunique, ils ont fait ceci, ça. C'était Christ qui parlait. Et en fait, David nous a annoncé Christ. C'est la venue de Christ que ces prophètes-là ont annoncé. Et nous aussi, notre vie doit annoncer cela dans tout ce que nous faisons. Dans exactement tout ce que nous faisons. Le baptême, ça doit annoncer Christ. La mort, la résurrection de Christ. N'est-ce pas? Le mariage, ça doit manifester Christ. Notre vie, comme dit le frère souvent, c'est ça, l'éternel. Tel que la vie de Christ. Et nous devons marcher comme lui. Bien sûr, par moments, comme David, il nous arrive de dévier, mais nous sommes toujours amenés par la repentance. Dieu ne nous rejette pas. Il nous reçoit toujours en tant que ses enfants, petits-enfants. Donc, il dit ceci, « Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Amen. Donc, ils ont connu le Père, ils ont écouté Jean et ils ont connu Jésus, la vérité. Et l'affranchissement de l'esclave, c'est précisément un des buts pour lequel Jésus a été oint. Quand il dit dans Luc 4 que l'Esprit de l'Éternel, Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Les pauvres se réjouissent. Il y a une bonne nouvelle qui va leur être annoncée. Il ne dit pas, il m'a oint pour leur amener de la semoule, hein, ou du foufou, non. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. C'est plus important que le pain. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, c'est la libération dont nous parlons. Aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, même les yeux spirituels. Quand vous n'arrivez pas à le voir, quand vous regardez la création et que vous n'arrivez pas à le voir, vous êtes aveugle à voir les choses spirituelles, il est là pour vous. Pour vous aider à voir. Il a un collier pour ça, pour vous oindre les yeux, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mes frères François, il parle ici de la délivrance des captifs. Oui, mais vous savez que dans l'Ancien Testament, même donc dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, les esclaves, c'était des captifs de guerre, des prisonniers de guerre, quand on... Il y avait la guerre ou bien quelqu'un qui envahissait une autre nation, eh ben, il faisait des prisonniers et les prisonniers étaient vendus comme esclaves. Et ça pouvait être vendu entre particuliers, Ça pouvait, comme des objets. Et vous devriez faire exactement ce que votre maître vous demandait de faire. Oui. Parfois, quand une personne était endettée, pour payer sa dette, si elle n'avait pas, si elle n'était pas solvable, si la personne n'avait pas les moyens pour payer sa dette, eh bien, il fallait qu'il devienne esclave pour servir l'autre. Pour les Israélites, Dieu avait sorti une loi pour ses enfants. Pour son peuple, la loi était un esclave ne pouvait pas rester esclave à perpétuité. Chaque jubilé, chaque année du jubilé, tous les 7 ans, on proclamait le jubilé. Et le jubilé, on lui disait, tu étais libre. Maintenant, c'était à l'esclave de décider. S'il était bien nourri chez le maître et qu'il préférait rester chez le maître, il pouvait y rester. Alors, s'il pouvait y rester, on devait lui poinçonner l'oreille. Lui poinçonner l'oreille, ça montre que celui-là, il n'écoutera plus jamais. Oui. Donc quand on poinçonne l'oreille comme ça, ça veut dire que finalement, pour vous, la parole de Dieu, c'est fini. Vous n'écouterez plus spirituellement parlant. Je ne parle pas de piercing aujourd'hui. Mais normalement, c'est le naturel montre le spirituel. Et les oreilles, laissez vos oreilles tranquilles, ne les percez pas. En fait, l'évangile est en train de vous dire vous êtes libre. Et vous ne voulez pas y croire. Oui. L'évangile vous dit, ces jours-ci, il y a une campagne pour les fumeurs et qu'on sort, et l'alcool et toutes ces choses. L'évangile est en train de vous dire, vous n'êtes pas obligé de vous miner la santé avec ces choses-là. Jésus a vaincu ces choses-là à la croix. Vous avez la victoire. Maintenant, celui qui doute de ça, il va continuer là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de continuer à mentir. Le mensonge amène toujours dans des endroits mauvais. Vous n'êtes pas obligé pour ça. Vous n'êtes pas obligé de voler. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Il vous le donnera. Pour cela, il y a des témoignages, vous savez. Mais bon, puisque nous ne devons pas trop traîner. Mais les captifs, donc, étaient là. Ils devaient attendre le jubilé. Et les étrangers, eux, ne bénéficiaient pas de cette loi-là. Ce qui signifie que le jour du jubilé, le jubilé n'était pas pour eux. Maintenant, s'ils devenaient un citoyen israélite de par son chef et tout, s'ils croyaient en Dieu, s'ils commençaient à suivre, le chef pouvait le libérer. Mais il n'était pas obligé. Il pouvait l'affranchir, mais il n'était pas obligé. Alors, si vous êtes endetté, que si vous arrivez à payer votre dette, vous pouviez être libéré. Eh bien, la dette, en ce qui nous concerne, Christ a payé cela pour nous. Il est venu délivrer les captifs. Et nous étions captifs du péché. On était tellement bien captifs que Paul pleure dans les Romains, Romains 7, n'est-ce pas? Il dit ceci. Au verset 15, car je ne sais ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc on est redevable vis-à-vis de la loi. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Pas la capacité. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais par contre, dans les membres, c'est différent. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il se trouve misérable. Il dit, misérable et un misérable, il recourt à quoi ? À la miséricorde. Vous voyez ? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? La réponse est donnée, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons cette délivrance, délivrance du péché. Et nous en avons besoin. Jésus l'a dit aux Juifs, il leur a dit. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous délivrera de ce mensonge. La vérité vous délivrera de cette impudicité. La vérité vous délivrera de ces mauvaises pensées. Demeurez seulement dedans et vous aurez les pensées qui étaient en Christ. Jean chapitre 8 nous dit au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, la vérité, c'est le Fils. Vous serez réellement libre. Là, vous pensez que vous êtes libre, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes captif de cette chose-là dont vous dites souvent, c'est plus fort que moi. Vous êtes captif de votre caractère. Je n'arrive pas à me contrôler. Vous êtes captif de choses qui sont là, dont vous reconnaissez parfois, disant, c'est vrai, quand ça m'arrive, je pète un câble ou des trucs comme ça. Mais non, mais Dieu a la solution pour vous et pour moi. Lui qui est lent à la colère, il peut aussi vous rendre lent à la colère, semblable à lui. Délivrance de quoi ? Donc, délivrance du péché, nous venons de lire. Délivrance des liens que Satan met sur nous. Liés. Il nous lie carrément. Je donne l'exemple de cet arbre qui pousse et qui est pris par une plante rampante. Et la plante rampante s'enroule autour de l'arbuste. Et la plante rampante a tendance à pencher l'arbre, l'arbuste en question. Alors que l'arbre devait y aller tout droit, eh bien non, il va pencher. Et quand il va devenir grand, à la première tempête, il va tomber. Vous voyez ? Et c'est ce lien-là Jésus est venu nous délivrer de ce lien-là. Hein ? Dans Luc 13, nous voyons une sœur, c'est dans la question de guérison, qui était liée par quelque chose. Je crois que les médecins ne savaient pas de qu'est-ce qu'elle avait, cette femme. Les médecins de l'époque ne savaient pas, mais elle avait été déclarée infirme, vipo, comme on dit ici. Vous voyez ? Verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. C'était un esprit. On avait beau la passer au scanner, l'esprit n'est pas visible au scanner. On avait beau la passer à la RMN, c'est pas visible. On avait beau à toutes les sortes d'imageries possibles, en échographie, tout ce que vous voulez, l'esprit n'est pas visible. Vous ne le voyez pas. Mais comment est-ce que vous voyez que l'esprit est mauvais? Vous voyez les effets de l'esprit sur la personne. Ouais. La personne, au lieu de se tenir droite comme tout le monde, la personne était tout le temps courbée. Mais pourquoi tu es tout le temps courbé? Mais je n'arrive pas à me redresser. On peut ne pas comprendre, mais comment est-ce que tu n'arrives pas à te redresser toi aussi? Redresse-toi. Non, n'arrive pas à se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Lui, il savait déjà, depuis longtemps, il savait, quand il l'a vu, il savait que c'était une infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée, dites amen à ça.
Amen.
Ouais. Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ouais. Cette libération, cet affranchissement, eh bien, a sorti son peuple de l'esclavage du péché et les affranchis, peut les appeler les affranchis du Seigneur. 1 Corinthiens 7. Sont les petits-enfants. Vous qui connaissez la vérité, vous êtes bénis. Étant la résurrection et la vie, nous avons toujours cette espérance. Paul dit à Timothée, Jésus-Christ est notre espérance. Si on ne le connaissait pas, on serait malheureux aujourd'hui. Voyons comment cette année-ci a commencé. On en est presque à la moitié, mais c'est déjà du lourd que nous avons dû encaisser et que nous encaissons encore. 1 Corinthiens 7. Verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Même si tu étais esclave de telle ou telle chose, mais quand Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé, ne t'inquiète pas.
Amen.
Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt.
Amen.
Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur.
Amen.
Amen. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ et son joug est léger. Alors, on va terminer. Cet affranchissement nous accorde un privilège. C'est que quand nous sommes affranchis ainsi, nous devenons des petits-enfants. Nous sommes de Dieu. Dieu étant notre Père. Et en fait, cet affranchissement nous apporte carrément l'adoption par Dieu, où nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Galates. Et vraiment, nous avons cet avantage, nous avons intérêt à demeurer dans la parole. C'est ce que Jésus nous dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous avez cru, c'est bien. Parce que si on revient dans Jean 8, vous allez voir, ces Juifs-là, ils ont cru. Hein. C'était des gens qui ont cru. Mais maintenant, vous avez cru, c'est bien, mais ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous arrêtez pas à ça. Il dit, puisqu'il s'est adressé aux Juifs qui avaient cru en lui. Au verset 30, on retient Galate. Au verset 30, Jean 8, il dit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Ça va ? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc ceux qui ont cru, pas d'autres, à ceux qui ont cru, il leur dit « Si vous demeurez dans ma parole, donc ne vous arrêtez pas seulement de croire en lui, les démons croient aussi, mais ils tremblent. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans Galates chapitre 4, je peux commencer au verset premier. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, il éduque, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, maintenant vous connaissez la vérité, ça va ? Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous êtes affranchis de ces choses. Vous voyez ? Vous connaissez la vérité, petits-enfants. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Mais c'est formidable, c'est merveilleux. Si on est adopté, on a les mêmes droits que Jésus-Christ. Parce que, vous savez, le fils adopté, n'est-ce pas, il a les mêmes droits que le fils de la maison. Exactement comme Éphraïm et Manassé, ils avaient les mêmes droits que Siméon, Ruben, Lévi, tout cela, ils avaient exactement les mêmes droits en tant que fils de Jacob. On peut le lire, on termine. Donc, on a ce droit-là, on reçoit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est qui ? C'est l'esprit d'adoption. Qui crie quoi ? Qui crie « Abba Père ». Quand on a un problème, « Abba Père ». On a faim, Abba Père. On est malade, Abba Père. On est lié, Abba Père. On est entouré d'ennemis, Abba Père. C'est un esprit qui crie Abba Père. Dans Genèse 48, on peut commencer au verset 12, au verset 13. « Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, Jacob. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. » Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom. Dites amen à ça. Et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Plus tard, quand il va bénir prophétiquement ses enfants, eh ben, il bénira également Manassé et Éphraïm. Ouais. Et ce qui signifie que si nous recevons l'adoption aujourd'hui, eh ben, c'est parce que, en tant que petits-enfants, c'est parce que la vérité nous a affranchis et la vérité a fait de sorte que que nous soyons aujourd'hui de Dieu.
Amen.
Vous êtes de Dieu, qu'il a dit. Vous êtes connu de Dieu et vous connaissez Dieu. Amen.
Amen.
Oh, que Dieu vous bénisse.
Amen.
Ne vous découragez pas. S'il faut pleurer, on pleure. S'il faut rire, on rit. S'il faut se consoler, on se console. Hein? Que ces choses nous rapprochent encore davantage. Que nous puissions encore davantage nous lier davantage. Que nous soyons toujours tous ensemble dans ce même lieu, n'est-ce pas? Hein? Jusqu'à ce que la promesse du Père se réalise. Et que se réalise, c'est peut-être déjà réalisé pour certains, mais que se réalise non plus individuellement, mais comme à la Pentecôte, vraiment dans l'Assemblée. Que lorsqu'on chante, que l'on chante par l'Esprit. Que lorsqu'on adore, que l'on adore par l'Esprit. Lorsqu'on prêche, que l'on prêche par l'Esprit. Que tout soit fait par l'Esprit et que le Amen soit dit par l'Esprit.
Amen.
Prions le Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu, pour ta parole et pour le plan merveilleux que tu as établi en ce qui nous concerne, faisant de nous tes enfants, faisant de nous tes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ, de toutes les bonnes choses que tu as mises à ses pieds, que tu as mises à sa disposition. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, nous en sommes indignes, mais il t'a plu de pouvoir de nous donner tout cela et nous t'en remercions. Bénis tes enfants ce soir, bénis chacun d'entre eux. Merci pour nous avoir réunis ce soir et nous te demandons, Père, de bien vouloir, ô Dieu, te souvenir de nos prières, que nous puissions recevoir, ô Père Céleste, recevoir la visite de l'ange qui a visité Zacharie autrefois lui disant « Oh, ne vous en faites pas, vos nombreuses prières ont été entendues. » Et c'était le même ange qui avait visité Daniel alors qu'il était en prière. Il lui a dit « Daniel, tu es un bien-aimé. Quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Que cette même parole puisse sortir en notre faveur, en faveur de nos bien-aimés qui en ont besoin. Oh, aide-nous à nous préparer, à hâter ta venue, Seigneur. Oh Père, que nous soyons trouvés prêts lorsque tu viendras. Te prions pour nos malades. Te prions pour, oh Dieu, tous les nôtres que nous t'avons, que nous voulons, que nous te donnons, que nous apportons, que nous amenons devant toi, afin que tu te souviennes d'eux, que tu les touches, que tu touches leur cœur, et que, oh Dieu, et qu'ils se donnent et qu'ils s'abandonnent complètement à toi. Bénis-les, sois avec chacun. Merci pour nos prières que tu as exaucées déjà. Oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh Dieu, nous croyons que Jésus-Christ l'est. Nous croyons qu'il est le Fils du Dieu vivant. Nous croyons qu'il est la résurrection et la vie. Nous croyons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous le croyons de tout notre cœur. Béni sois-tu, il est le pain descendu du ciel. Il est tout cela, nous le croyons. Oh Père, et lui, s'il te demande, tu l'exauces toujours. Que puisse-t-il te demander ces choses que nous te demandons ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Et nous te demandons également en son nom, au nom de Jésus-Christ, de nous accompagner alors que nous allons entrer dans nos demeures. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.